Comme ça. Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure.
Alors, je suis en tête à tête avec Jean-François Lisée. Marie n'est pas là aujourd'hui. Jean-François, tu sais, quand Mario Dumont voulait devenir premier ministre du Québec, puis on le caricaturait toujours en culotte courte, comme si c'était un jeune garçon, puis il était bien trop jeune pour devenir premier ministre, ça n'a pas l'air vraiment à déranger les Français. Hein. Je regarde Gabriel Attal, il a l'air d'avoir 16 ans et demi, et ça n'a pas l'air de les déranger. Donc, on dirait qu'ils sont plus ouverts à la jeunesse que nous, non?
Regarde, on a eu Robert Bourassa qui était premier ministre dans la trentaine aussi. Je veux dire, toute la classe politique est plus vieille depuis les 30 dernières années. C'est dû au vieillissement de la population et au fait que les capacités cognitives, du moins jusqu'à 75-80, restent quand même assez fortes. Mais effectivement…
il a l'air jeune, il est très jeune.
Il a 35 ans, il a l'air de 20, oui. 28, je dirais. Il assume sa jeunesse, mais c'est une tête. C'est une tête et il a fait sa réputation. D'abord, Macron l'a désigné comme porte-parole du gouvernement. Donc, les Français l'ont vu parler au nom du gouvernement dans différentes tribunes. Donc, c'était normal. Mais ensuite, il l'a nommé ministre de l'Éducation, qui est une énorme responsabilité, comme le sait notre ami Bernard Drainville. Et là, en quelques mois seulement, moins d'un an, il a étonné. Il a étonné parce que il avait des idées claires sur ce que devait être l'école républicaine. Mmh. Elle devait être laïque. Il devait y avoir des niveaux. Il fallait pas que les cancres soient avec les meilleurs pour qu'ils retardent pas la classe. Il était très traditionnel, finalement, dans son approche. Il était anti-woke. Le ministre précédent était très woke. Lui, il est anti-woke. Et les Français, du moins de la France profonde, de la France conservatrice, puis même de la gauche républicaine dont je suis, on s'est reconnu en lui. On dit « Ah, ben lui, il a l'air à savoir, il s'assume complètement. Il n'y a pas d'hésitation. Mmh. » Et c'est ce qui fait que Macron l'a choisi alors qu'il y avait d'autres candidats à ce poste-là, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Finances, qui étaient les candidats normaux, et puis là, c'est ce jeune-là, et Macron a brisé les codes en allant chercher ce jeune qui est très présent et communique énormément sur la crise agricole, par exemple, on l'a vu aux premières loges très rapidement, et donc c'est très rafraîchissant dans une France vieillissante d'avoir quelqu'un qui assume sa jeunesse et qui est, il en fait pas état, il est homosexuel, tout le monde le sait.
Ah, ben je le savais pas, tiens, regardons ça, alors je l'apprends aujourd'hui. Écoute, Jean-François, toi, tu étais dans les coulisses de la politique pendant longtemps. Raconte-moi des histoires là, entre les relations entre le Québec et la France, là. Les relations diplomatiques, ça se passe comment quand il y a un premier ministre français qui débarque ici? Ouais?
Bon, alors il faut savoir si c'est un nouveau ou c'est un ancien, parce que chaque fois qu'il y a un nouveau, il faut tout leur réapprendre, OK? Parce que le triangle Québec-Ottawa-Québec, France, Paris-Ottawa-Québec, c'est un triangle qui est semblable à presque rien d'autre. Et donc, il y a des équilibres, il y a des choses à dire, des choses à ne pas dire. Et lorsque le premier ministre et le président, d'ailleurs, font une visite au Canada, c'est d'abord Ottawa, ensuite le Québec. Puis nous, les Québécois, on trouve ça bien parce que ils voient la différence. Une fois qu'ils viennent ici, bon, c'est beaucoup plus chaleureux, c'est moins guindé, ça se passe en français complètement, alors qu'à Ottawa, il y a beaucoup d'anglais, et ils sont agréablement surpris lorsqu'ils font le voyage la première fois. Mais il y a une courbe d'apprentissage qui est assez raide. Par exemple, Pierre Mauroy, qui était un premier ministre socialiste, s'était rendu à Toronto et avait parlé des Acadiens de l'Ontario. Non, ce sont des Franco-Ontariens, d'accord. Et moi, je me souviens, j'en ai organisé plusieurs de ces visites, soit comme conseiller, soit comme ministre. Et je me souviens, Lionel Jospin, c'est une visite extraordinaire. Jospin connaissait rien au Québec, a été vraiment envoûté. Il y avait son conseiller, évidemment, on devient très proche des conseillers parce qu'on prépare la visite. Et évidemment, ils ne nous disent rien de ce qu'ils vont faire à Ottawa. On l'apprend en même temps que les journalistes. Et la même chose, ils disent pas à Ottawa ce qu'ils vont faire au Québec. Nous, on le sait, mais on le dit pas à Ottawa. Et donc, il y a toujours une surprise et je vois que Jospin a signé une entente sur la santé avec Ottawa. Alors, il débarque à Québec, à Montréal, on va manger. Et puis là, j'ai mon conseiller à côté de moi, puis je lui dis, bon, donc vous avez signé une entente sur la santé. Il dit, oui, oui, on est très content. Ben, il dit, c'est bien, c'est important la santé, oui. J'ai dit, est-ce que vous saviez que le gouvernement canadien n'a d'hôpitaux que pour les Autochtones et les militaires? N'a aucun hôpital général. Ah bon? Donc, vous ne saviez pas, hein? Ah bon? Oui, la santé, c'est les provinces qui ont les médecins, les infirmières, tout ça, c'est les provinces. Vous êtes fait avoir par Ottawa qui a cru, que vous avez cru qu'ils avaient un ministère national de la santé. Alors, c'est faux. Alors, il a mangé sa soupe. Bon.
Ben, c'est compliqué pour eux. Oui, tu avais d'autres anecdotes?
Ah, ben écoute, on pourrait durer 2 heures. Et, donc, évidemment, à chaque fois, donc, comme je t'ai dit, il y a 3 étages. Il y a le ni-ni, OK? Ni ingérence, ni indifférence. Ça, c'est lorsque on n'est pas à la veille d'un référendum, on veut pas faire de tort aux relations très importantes que la France a avec le Canada. C'est un allié à l'OTAN, au G7. Oui. C'est-à-dire, les relations sont constantes avec le Canada. Donc, c'est pas une non-personne. C'est pas la plus importante des relations, mais ça compte. Et donc, il faut pas les froisser. Et à Ottawa, il aimerait ça se débarrasser du nini. Alors, il faut se battre pour le nini. Ensuite, lorsque les péquistes sont au pouvoir et préparent un référendum, ah ben là, on monte un étage, c'est le Québec, la France accompagnera le Québec dans ses choix. Qu'est-ce que ça dit, ça? Ça dit que si le Québec vote oui, puis que le Canada refuse de reconnaître le oui, la France va reconnaître le oui. C'est ça le préavis qui est envoyé. Et donc, c'est déjà se projeter dans l'avenir. Évidemment, les Français disent, ben, nous, on espère que le Canada va dire oui puis qu'il n'y aura pas de problème. Nous aussi, on l'espère. Mais on sait que ça peut ne pas être le cas. En 95, on savait que si on gagnait avec 51% ou n'importe quel chiffre, Jean Chrétien aurait dit, je ne reconnais pas cette décision-là. On le sait parce qu'il nous l'a dit. Mais on le pensait aussi. Alors, le soir du référendum, les Québécois ayant voté oui entendraient le Canada dire c'est pas vrai, ça compte pas, et la France qui dirait oui, ça compte. Nous, on reconnaît votre décision. Et donc, ça c'est très important. Et cette phrase-là, nous allons accompagner le Québec dans ses choix, ça ne se dit que lorsque un référendum s'en vient pour donner ce préavis. Alors moi, j'étais avec Pauline Marois quand on a rencontré François Hollande. Et là, notre objectif, c'était qu'il répète le nini. Mais la diplomatie canadienne leur dit toujours pourquoi faire ça? Pourquoi? T'sais, qu'est-ce que ça donne? C'est mal perçu au Canada, etc. Et donc, il faut insister. Ce qu'on a insisté dans la rencontre privée. Et là, on sort. Et ça, c'est une délicatesse. C'est que quand on sort de l'Élysée, le premier ministre québécois, dans ce cas-là, Pauline Marois, va parler aux journalistes qui veulent savoir qu'a dit le président. Mais là, pourquoi est-ce que c'est le premier ministre du Québec qui doit reprendre les paroles du président? Ça doit être le président qui le dit lui-même. Oui. Tu comprends? Mais le président ne sort pas voir les journalistes à la sortie. D'habitude, ils font un communiqué, puis on ne sait jamais s'ils vont l'écrire, le communiqué, parce que leur diplomate dit, est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire de la peine au Canada? Bon. Et là, comment ça se passe? C'est que, donc, par gentillesse, François Hollande vient reconduire Pauline Marois jusqu'en haut des marches de l'Élysée, la salue, descend les marches, et moi, j'hésite à descendre parce que je vois qu'Hollande ne rentre pas. C'est-à-dire que je reste à côté d'Hollande, comme pour créer la bulle. Il est toujours dans la bulle québécoise. Ça qui regarde, puis là, il me dit, je devrais peut-être y aller. Ben, je dis, c'est une excellente idée, Monsieur le Président. Et là, je bouge pour créer un mouvement, pour qu'il bouge avec moi, et là, il descend. Ce qui est très rare, là, les journalistes notent, oh, le président descend, et là, il confirme le nini. C'est ce qu'on voulait. Alors, tu vois, il y a des choses, ça se joue, là. Ça se joue à la dernière seconde, par la peau des dents, pour sentir le truc.
Quand tu dis ça se joue à la dernière seconde, là, le fameux Vive le Québec libre de Gaulle. De Gaulle est une figure qui me fascine, et j'ai lu beaucoup de biographies sur De Gaulle. Il vient tout juste d'en sortir une, le premier tome, très volumineux, que j'ai acheté, pas encore eu le temps de le lire, mais selon ses biographes, il a comme improvisé ça, là. Tu sais, les gens l'applaudissaient, puis les gens étaient contents de le voir, il était sur le balcon, puis là, soudainement, il s'est emporté, puis il a dit « Vive le Québec libre ». Qu'est-ce que tu en penses, toi?
Un instant.
OK. Jean-François est en train de fouiller, non?
Alors, ça s'appelle De Gaulle, l'indépendantiste.
Dans
certains, Jean-François Lisée. Okay?
OK?
Alors, regarde bien. La première citation. Alors, c'est De Gaulle qui est sur le bateau, le Colbert, qui l'amène à Québec. Il parle à son chef d'état-major. Que diriez-vous si je leur disais « Vive le Québec libre »? Oh, vous n'allez pas faire ça, mon général? Eh bien, je crois que si, ça dépendra de l'atmosphère. Alors, il n'y avait rien d'improvisé, là, OK? Il est sur son bateau, il est en train d'écrire ses discours, tous, il écrit tous ses discours, il sait qu'il va en faire une dizaine, puis il sait qu'à la fin, il va dire « Vive le Québec libre » si il trouve que les conditions sont réunies. Mais il trouve qu'elles sont réunies pendant son parcours entre Québec et Montréal. Il est en limousine, c'est le chemin du roi. Il fait des discours de plus en plus nationalistes à chaque arrêt, tellement que le premier ministre Daniel Johnson, le père qui est avec lui, à un moment donné, rendu à Trois-Rivières, et dit « Je pense bien que, comme ça va là, rendu à Montréal, on va être déjà séparés. »
Parce que les gens l'attendaient, les gens l'applaudissaient sur les deux bords de l'autoroute, là.
Oui, exact. Puis c'était en liesse. Et d'ailleurs, quand il arrive à Montréal, il est en retard parce que la voiture peine à avancer. On a calculé que la moitié des Montréalais étaient dans la rue sur son trajet à Montréal. La moitié des Montréalais étaient sur son trajet. Et c'est pour ça que quand il monte au balcon, il dit « ça m'a rappelé l'atmosphère de la libération de Paris ». Pas parce qu'il pensait que les Canadiens anglais étaient des nazis, évidemment, ils l'ont pris comme ça. Non, parce que la foule était tellement dense que ça lui rappelait son entrée dans Paris. Il y a deux journalistes qui sont avec lui, qui ont connu la libération de Paris, qui ont eu la même réaction. C'est comme à la libération. Mais de dire « Vive le Québec libre », c'était d'autant plus important pour lui que, comme je raconte dans ce livre-là, il devient indépendantiste, ce qu'il dit dans ses mémoires, il devient indépendantiste québécois lors de sa visite de 60 au Québec. Ce qui est bien bizarre, parce qu'il ne se passe rien en 60, il vient avant l'élection de Lesage. Mais ensuite, son premier écrit indépendantiste québécois, c'est en 1964 qu'il le fait. On a cette trace-là. Et donc,
c'était un libérateur des peuples. Hein. Il a accordé l'indépendance à l'Algérie, d'ailleurs.
Exact. Et lorsqu'il reçoit, Jean Lesage deux fois. Okay? D'ailleurs, c'est incroyable. Un premier ministre de province qui voit un des géants de l'histoire. Et c'est parce qu'il considère que c'est un pays en devenir. Et à un moment donné, il dit à Jean Lesage, il dit « Bon, alors, tout ça va finir par l'indépendance. » Puis Lesage dit « Mais il n'en est pas question! » Alors, c'est vraiment... Et puis, il fait le même coup ensuite à Gérard Lajoie. Alors, c'est sûr que lui, il voulait faire ça. Et il voulait faire l'histoire. Puis, à un moment donné, au début, il refuse de venir en 67 parce qu'il dit « Si j'y vais, je vais mettre le feu. » Si j'y vais, je vais mettre le feu. Alors, c'est complètement planifié et délibéré.
Et écoute, on fait un bond dans l'histoire, on se rapproche de notre époque. Sarkozy, lorsqu'il a gagné ses élections présidentielles, il a remercié son ami québécois, M. Desmarais, en disant « Je lui dois mon élection ». Et d'ailleurs, c'était le premier président français qui a tranché, justement, qui a coupé avec le Nini. Lui, il voulait que le Québec reste une province au sein du Canada, point final, comme son grand chum Desmarais.
Exact. Et ça, c'est très fort parce que, bon, on a eu des présidents réticents. François Mitterrand, par exemple, était réticent. Mais c'est clair que, comme il le dit en privé à Lucien Bouchard, ben écoutez, si vous faites si vous faites l'indépendance, on va vous suivre. Bon, mais on pense que c'est pas une bonne idée. T'sais, De Gaulle trouvait que c'était une excellente idée. Mitterrand trouvait que c'était pas une bonne idée. Chirac trouvait que c'était une bonne idée. Mais Nicolas Sarkozy trouvait que c'était pas une bonne idée. Puis lui, contrairement à Mitterrand, il l'a dit. Quand il est venu au Québec, il a dit « Ben, c'est du sectarisme, c'est du repli sur soi, puis le Nini, ça m'intéresse pas. On est des frères, mais c'est pas le temps de se diviser. » Bon, alors c'était extrêmement dur.
Mais est-ce que c'était, ses convictions personnelles, selon toi, où il voulait pas faire de peine à son chum Desmarais?
Non, 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 c'est ses convictions personnelles. Lui, comme a dit un de ses conseillers, on n'est pas dans le business de détruire le Canada. Okay? Et puis ensuite, quand il est venu, moi j'étais ministre des Relations internationales, il est venu faire un discours à la Chambre de commerce, puis j'étais devant lui, puis on a discuté un petit peu, puis j'ai essayé d'arrondir les angles, mais c'était très ancré. Et Jacques Parizeau avait dit, écoutez, là, le chef, le premier homme d'État de la francophonie vient de dire plus de mal de la perspective de l'indépendance du Québec que le chef de l'anglophonie, Bill Clinton, n'en a fait lors du référendum de 95. T'sais, c'était énorme. Et donc, après Sarkozy, ben, ça s'est replacé. Et donc, Attal, ce qu'Attal vient de faire, c'est de reprendre le fil de la non-ingérence et de la non-indifférence. Dans son discours d'hier, un discours remarquable, hein, j'y consacre ma chronique dans Devoir demain, et il y a des accents gaulliens. Évidemment, il ne dit pas « Vive le Québec libre », mais ce qu'il dit de l'histoire des deux nations, de la force de leurs liens, il y a des échos gaulliens là-dessus.
Ce qui faisait plaisir à entendre, c'était sa défense de la laïcité, parce que là, elle est attaquée là, par la commission scolaire English Montreal, attaquée par la Ligue des droits et libertés, tout ça. C'est là que tu vois que la laïcité est un concept français. Vraiment. Et c'est pour ça que ça passe mal dans le Canada. C'est un clash de deux systèmes, là. Deux façons de penser.
Deux visions, de deux façons de penser, tout à fait. Et c'est clair que, bon, c'est français, mais c'est européen aussi. Bon, plusieurs autres pays européens sont dans cette mouvance-là, mais tu as raison de dire que la grande lumière de la laïcité, c'est la lumière française. Puis en Amérique du Nord, ben c'est le Québec. Moi, je pense qu'il va y avoir un moment où cette laïcité-là va déborder le Québec. Mais puis parce qu'il y a au Canada anglais, il y a des preneurs. Il y a personne qui les représente politiquement, sauf Maxime Bernier. Mais il y a des preneurs au Canada anglais pour ça, mais il n'arrive pas à percer. Mais effectivement, donc Lionel Jospin avait une très belle image pour montrer la force combinée du Québec et de la France, c'est qu'on est adossé un à l'autre. Quand tu es dans une situation précaire, quand tu es adossé à quelqu'un d'aussi fort que toi ou de plus fort que toi, t'es plus difficile à déloger. Hein? C'est ça, la force commune.
Et s'il y a un tombe, l'autre tombe. Là. C'est comme Olivier Guimond dans le bye-bye, dans le fameux bye-bye. Si tu tombes, je vais tomber avec toi.
C'est ça, exact.
Jean-François, merci pour ce survol des relations entre le Québec et la France. Cela dit, t'as vu aujourd'hui, oui, De Gaulle,
dans
l'indépendantiste.
Dans et sur la boîte alizé.com.
Ça serait le fun. Ça a l'air difficile pour les entrepreneurs québécois de percer le marché français. Ils exportent énormément de produits au Québec. Malheureusement, ils n'ont pas l'air à acheter nos produits. Si on est vraiment deux frères, ça serait bien qu'ils ouvrent un peu plus leurs frontières aux entrepreneurs québécois aussi. Là. Ça n'a pas l'air facile de faire le business avec eux.
Ben, c'est plus facile d'investir. Et donc, moi, on parle beaucoup du commerce, mais moi, j'aime mieux regarder l'investissement croisé. Les investissements québécois en France d'industrie, il y en a beaucoup. D'ailleurs, Attal en a cité plusieurs. Il y a beaucoup d'investissements français au Québec. Et c'est l'investissement qui est porteur d'échanges de technologies, de connaissances, de brevets combinés, etc. Et pour moi, il faut appuyer l'investissement. Le commerce, écoute, qui achète notre bois ou non, c'est pas très important. C'est beaucoup plus important qu'il crée des emplois et qu'on en crée là-bas.
Et ils achètent nos artistes, ils achètent nos chanteurs. Ça, il n'y a aucun problème. Merci, Jean-François Lisée. Bon week-end.
Merci. Merci, bon week-end à toi.
Merci beaucoup à la recherche, Marianne Bessette, pour ton excellent travail. Merci beaucoup, Marianne. Florence Lamoureux, à la réalisation, la mise en onde, Jean-François Roy et Tristan Brunet-Dupont. Merci à Jessica aussi pour la mise en ligne. Ah, c'est sa fête, c'est son anniversaire à Jessica en plus. Bon, ben, joyeux anniversaire, Jessica, une collègue très appréciée. On se reparle au prochain épisode.